en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission. En séance, la rediffusion intégrale des communications prononcées en séance publique le lundi devant l'Académie des sciences morales et politiques au palais de l'Institut de France, Quai de Conti à Paris, 23 Quai de Conti précisément. Et le lundi 23 mai, dans le cadre de l'année de travail consacrée à l'histoire, vous le savez, cette année de l'Académie des sciences morales et politiques 2005 est présidée par Jean Tullard, l'historien Jean Tullard, qui propose quotidiennement aux académiciens de plancher sur un sujet bien précis autour d'une question. Faut-il faire confiance aux historiens ? Et donc le lundi 23 mai à 15h en séance publique, c'est Alain Larcan, le président du conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle, qui s'exprimait devant les académiciens. Communication intitulée « De Gaulle, historien ». Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Mesdames et messieurs les académiciens, mon propos dont je mesure à cet instant la difficulté et même la témérité, posera la question précise, qui est la vôtre, Monsieur le Président, De Gaulle fut-il un historien ? À laquelle je réponds, d'entrée de jeu, oui, de toutes ses fibres. Le soldat écrivain, ayant enseigné et beaucoup écrit entre les deux guerres, sut mettre en forme l'histoire après l'avoir faite. Et sa connaissance raisonnée de l'histoire contribue notablement à ses réflexions et décisions d'homme d'État. L'histoire, il la trouve en quelque sorte dans son berceau. Son grand-père de formation chartiste n'est-il pas l'historien reconnu de Paris ? Sa grand-mère, polygraphe de talent, l'auteur de plusieurs biographies ? Son père enseignait l'histoire aussi bien d'ailleurs que la philosophie et les mathématiques dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Mon père, homme de pensée, de culture et de tradition, était imprégné du sentiment de la dignité de la France. Il m'en a découvert l'histoire. Et certains de ses élèves, je ne sais si Monsieur le chancelier honoraire s'en souvient, ont retenu qu'il professait que le sens de l'histoire, c'est le bon sens. La passion pour l'histoire de Charles de Gaulle se marque très tôt. Copie d'histoire bien écrite, documentée, digne d'un concours général d'autrefois. Première conférence du jeune officier, nourrie d'allusions historiques. Mais ce sont surtout les lectures, avec de très nombreux livres d'histoire, lus et relus, la plume à la main avec prise de notes. Pour lui, la culture générale est la véritable école du commandement. J'ai pu localiser dans les œuvres du général de très nombreuses allusions et citations, en retrouver l'origine et la filiation, l'utilisation et leur translation. Historien gréco-latin, et d'abord Thucydide, père de l'histoire militaire et politique, mais aussi Xénophon, Polybe, Plutarque et même Diodore de Sicile. Tite-Live, Salluste, César, Tacite surtout, et même Velleius Paterculus. Les chroniqueurs du Moyen-Âge, Joinville et Froissart, les classiques de la philosophie politique, mêlés à l'art militaire, Machiavel, Richelieu, Ray, le Bossuet du discours sur l'histoire universelle, les ouvrages historiques de Montesquieu et de Voltaire, et au XIXe, qui est évidemment le plus proche pour lui, tous ou presque tous, Michelet en tête, et probablement un peu plus tardivement, Alexis de Tocqueville, mais aussi Thiers, Taine, Renan. Deux influences très marquées, celle d'Ernest Lavis, dont les mélanges historiques étaient distribués aux Saint-Cyriens, et Albert Sorel et sa monumentale histoire de l'Europe et de la Révolution, qui sera son manuel de connaissance de l'Europe et de diplomatie. Bien d'autres, fussent-elles de Coulanges, et n'oublions pas le géographe Vidal de la Blache et le sociologue Gustave Le Bon. J'insiste davantage sur les historiens militaires, car cette histoire est volontiers ignorée et même décriée, ayant été jugée inutile par Marc Bloch. Ce n'est évidemment pas l'opinion de Charles de Gaulle, qui se range derrière ceux qui, de Polybe à Foch, recommandent l'étude des faits de guerre pour la formation des chefs. Et il connaît cet enseignement donné à l'École supérieure de guerre sous l'impulsion des Cardot, des Maillard, des Gilbert, des Grouard, des Bonal et de tant d'autres, auxquels il conviendrait d'ajouter le géographe militaire Niox. Il me semble se ranger dans le sillage de Maillard qui introduisit la méthode des cas concrets, c'est-à-dire l'étude des faits de guerre dont on connaît le résultat en détaillant les causes et les effets. Alors, le professeur d'histoire à Saint-Cyr, je me suis permis de faire distribuer quelques documents dans lesquels il y a une caricature du capitaine de Gaulle, professeur d'histoire à Saint-Cyr. Il prépare ses conférences écrites préalablement et dites par cœur sur les campagnes napoléoniennes, sur les campagnes de 1870. Il étudie particulièrement les réactions de la troupe et les attitudes des chefs. Et il partage le point de vue de ce qu'on peut appeler l'histoire préceptrice et maîtresse de vie. Quand sanglé dans son uniforme, ayant déposé son képi, il décrit par exemple le maréchal de Mac Mahon qui cheminait le cœur brisé au milieu de ses zouaves, des zouaves de son corps d'armée. « Monsieur le maréchal, pourquoi pleurez-vous ? Avons-nous refusé de mourir ?» Et à ce moment, le capitaine de Gaulle commande un garde-à-vous et rend hommage à cette pauvre troupe dont les malheurs injustes demeurent comme une ineffaçable leçon dédiée à ceux qui gouvernent, à ceux qui commandent. Alors le soldat écrivain, qui est connu entre les deux guerres, non seulement par les officiers, mais aussi par des écrivains comme Daniel Halévy, est l'auteur de nombreuses études et d'un cycle de 4 ouvrages, tous remplis d'allusions historiques. Nous ne retiendrons que 2 qui sont spécifiquement historiques. Le premier en date, « La discorde chez l'ennemi », paru en 1924, semble concerner l'histoire immédiate. L'essai est très soigné, mais il est présenté comme, non comme un récit, mais comme une étude de psychologie politique dont la trame historique concerne les empiétements permanents de l'état-major prussien sur le gouvernement où il voit la cause principale de la défaite allemande. Le second, la France et son armée, qui paraît en 1938 dans une collection prestigieuse, Présence, dirigée par Daniel Rops. À l'origine, il y a cette étude sur le soldat qui lui avait été demandée par le maréchal Pétain. On sait qu'il fut à l'origine de la controverse intellectuelle entre les deux hommes, de Gaulle ayant décelé très tôt que le maréchal ne faisait pas et ne voulait pas faire de distinction entre le travail rédigé et le travail écrit. Tout sera d'ailleurs matière ensuite à discussion, contenu, préface et dédicace. Il est, selon son auteur, un raccourci saisissant d'une France souffrante et triomphante, décrivant l'histoire de 10 siècles de service, de sacrifice et de gloire. Bon connaisseur des faits de guerre, il les situe dans leur époque, s'intéressant à la troupe, au recrutement, à l'encadrement, à l'état d'esprit, au moral. Livre incubateur, en quelque sorte, il peint à fresque un vaste ensemble permettant de saisir les rapports entre la nation et l'armée et de penser en profondeur les conditions et les ressorts de l'action. Cet ouvrage, qui traite des origines au premier conflit mondial, est dense en réflexion historique et sens des époques. Bien charpenté, il est peut-être le plus gaullien de tous, bien qu'il soit, à tort, aujourd'hui le moins lu et le moins cité. Il y a dans tous ses ouvrages, comme plus tard dans les discours et messages, et bien entendu dans les mémoires, des allusions permanentes à l'histoire. Elles sont comme inhérentes au déroulement de sa pensée. Un trait constant consiste à faire des rapprochements, souvent hétérochroniques, toujours suggestifs et éclairants, groupés par 3 ou 4, et qui concernent les événements et les personnages de l'histoire. Certains me rappellent l'exemple donné par André Malraux dans l'histoire de l'art, tellement ils sont éclairant. Un exemple parmi tant d'autres, les exemples de désobéissance militaire que l'on trouve dans le fil de l'épée. Il rapproche Pélissier à Sébastopol, Lanrezac à Guise, Lyautey au Maroc pendant le premier conflit mondial, et en contre-exemple, l'amiral Jellicoe au Jutland. Il avait toutes les qualités de Nelson, sauf une, il ne savait pas désobéir. Reste à préciser la méthode. Je crois qu'elle est celle de Fustel de Coulanges. Constater les faits, les analyser, les rapprocher, en marquer le lien, complété par celle des cas concrets de Maillard. Les exposés sont de nature diachronique, mais chaque chapitre est traité de façon thématique et synchronique. Il s'agit bien entendu de l'histoire positive, de l'histoire méthodique, elle est aussi un peu événementielle, mais il s'agit aussi d'une histoire sociétale, l'histoire d'une collectivité particulière, la collectivité militaire, commentée par des exemples nombreux, souvent numériques, et qui, vérifiés par les spécialistes, ont toujours été reconnus parfaitement exacts. En cela, tout en ignorant probablement les exigences de l'école des annales, mais qui commence quand même en 1929, certains développements rejoignent l'histoire structurale, l'histoire globale, l'histoire des mentalités. Mais au-delà du travail historique, de Gaulle a aiguisé son scalpel de savoir et d'analyse en vue de l'action. Il sait que toute action s'insère dans le temps et dans l'espace, il manifeste un intérêt certain pour la géohistoire et il demande au passé des leçons en se méfiant de l'anachronisme et en méditant les deux aphorismes complémentaires. On ne fait jamais que refaire l'histoire et adem sed aliter, mais aussi l'histoire ne repasse jamais par le même chemin. Tous ces écrits témoignent d'une information et surtout d'une réflexion sur les problèmes militaires, mais aussi politiques, jugés dans leur environnement international. Jusque-là, spectateur de l'histoire, il va en devenir acteur le 18 juin 1940. On peut légitimement se poser la question d'une sorte de préfiguration d'un grand rôle, d'une préparation à assumer éventuellement de grandes responsabilités. Mais jusque-là, il a rencontré l'histoire avec un petit H, celle de la connaissance du passé. Il va devenir l'homme du destin, selon le mot de Churchill, et il est confronté avec l'histoire avec un grand H, celle qui traite du destin des hommes dans le temps. Et dans la dernière page du fil de l'épée, on trouve cette invocation. Puisse être hanté d'une telle ardeur les ambitieux de premier plan, qui ne voient à la vie d'autre raison que d'imprimer leur marque aux événements et qui, de la rive où les fixent les jours ordinaires, ne rêvent qu'à la houle de l'histoire. Et il y a toute une série d'autres textes et propos qui permettent probablement de mieux comprendre les origines intellectuelles et morales du 18 juin, mais il faut éviter toute hagiographie. Le vocable « histoire » est en tout cas une occurrence qui se trouve, avec une variété de termes extrêmes, le plus fréquemment sous la plume de Charles de Gaulle. Nous retiendrons de la période 40-44 qu'il déclare vivre le pire drame de notre histoire, les heures les plus difficiles de notre longue et dure histoire, à la libération, les plus grandes heures de notre histoire. Il a été investi par la plus dure histoire, et il estimait que sa légitimité avait été conférée et confirmée par l'histoire. Alors, à la fin des mémoires de guerre, après avoir affronté et dominé la tempête, il écrira « Dans le tumulte des hommes et des événements, la solitude était ma tentation, maintenant elle est mon amie, de quel autre se contenter quand on a rencontré l'histoire ?» Car en effet, au « J'ai fait l'histoire » et je la pouvais écrire de Chateaubriand, le général a répondu qu'il a rencontré l'histoire et qu'il l'a écrite. Il a eu sûrement très tôt l'idée d'écrire ses mémoires, mais l'essentiel de la rédaction appartient à la traversée du désert, c'est-à-dire à partir de 1953. Il s'y consacre avec ardeur et ténacité. Les manuscrits, là encore, je me suis permis de vous faire distribuer quelques manuscrits et je dois à l'autorisation de l'amiral Philippe de Gaulle d'avoir pu en faire cette reproduction, comportent de nombreuses ratures et corrections, d'ailleurs passionnantes à étudier. Le premier manuscrit est à peu près illisible. Il est recopié par le général lui-même dans la deuxième version, dactylographié par sa fille Elisabeth et recorrigé encore deux fois. En 1953, il dit à Louis Termoir : « Ces mémoires me donnent énormément de mal pour les écrire et pour en vérifier les éléments historiques au détail près. Comprenez-vous, je veux en faire une œuvre. Ce n'est pas ce qu'a fait Churchill qui a mis bout à bout beaucoup de choses. » Il s'agit de témoignages écrits et vérifiés, la valeur littéraire en est considérable, mais pour nous en tenir à la seule nature historique, nous évoquerons trois problèmes, qui sont d'ailleurs identiques dans les mémoires de guerre et dans les mémoires d'espoir, qui vont être rédigés à partir de 1969, malheureusement inachevés, et qui concernent alors les temps ordinaires avec ses heures et malheurs. D'abord, le dédoublement de la personne de l'auteur. On connaît l'usage césarien qui remonte en fait à Xénophon et que l'on ne retrouvera que rarement par la suite, mais M. Ménard le sait, en particulier dans la première partie des mémoires de La Rochefoucauld. L'auteur cite son nom et emploie la troisième personne du singulier en faisant allusion à son action. La signification profonde est que le narrateur est en quelque sorte le spectateur de son propre destin, de ses actes et de ses décisions. Et il met en quelque sorte une certaine distance entre les gestes du personnage symbole qu'il est devenu et il explique qu'ayant compris qu'il incarnait pour ses compagnons et pour la multitude des Français le symbole de leur espérance, ceci allait commander son comportement. « Ce fut pour moi, écrit-il, sans relâche, une forte tutelle intérieure en même temps qu'un joug bien lourd. » En ce qui concerne la réalité des faits rapportés, on ne dira jamais assez que De Gaulle, en vrai réaliste, croit à l'adéquation des faits, des réalités et des mots qui les expriment. Il est un homme qui n'écrit que des phrases auxquelles il croit. Témoin, acteur, mémorialiste et historien, il choisit, à l'instar de Cicéron, de ne dire que le vrai et de ne rien dire de faux. C'est la raison pour laquelle il attachait beaucoup d'importance à la documentation, au tri de quelques 100 000 pièces et à la vérification des faits. Il a le souci de la sincérité à l'égard de lui-même et de ses lecteurs, même si avant la sincérité, il place la vérité de son action. Il dit sinon la vérité totale, du moins ce qu'il a vu, perçu, ressenti et fait. Il n'y a aucun mensonge volontaire, aucune omission grave, aucune déformation des faits, aucune interprétation franchement contestable. Il se peint tel qu'il se voit parmi les événements tels qu'ils sont. « Je n'y porte, dira-t-il à Sulzberger, aucune appréciation parce que je suis juge et parti. Simplement, je dis ce que j'ai fait. » Pourquoi je l'ai fait ? Pour le surplus. L'histoire jugera. À ce sujet, on peut dire que la constante relation qui lie chez lui pensée et action, héritage thomiste et cartésien, lui permet d'être confiant vis-à-vis des jugements de l'histoire. Je n'ai pas peur de l'histoire. Nous ne redoutons pas l'histoire. Quant au jugement des historiens de profession, je crois qu'il ne s'en préoccupait guère. Dans les mémoires, il n'est rien sans l'histoire, et dans l'histoire, il ne s'appartient pas. Ces mémoires ont un plan précis, 3 tomes, 22 chapitres, très structuré, qui mélangent subtilement la chronologie et la thématique, et qui ont nécessité une véritable réécriture des scènes dont il a gardé le souvenir et dont il donne le récit en artiste de l'histoire, selon l'expression de Stanley Hoffmann. Ayant influé sur les événements, au point parfois d'en changer le cours, grâce à l'écriture, il en arrête et fixe le sens. Ce texte incomparable est d'abord un message adressé aux Français, présents et surtout à venir, pour leur rappeler que l'existence d'une nation est fragile et qu'après les grandes défaites, la passivité est le pire ennemi. Ce n'est qu'avec beaucoup de discrétion qu'il laisse entrevoir ses réactions personnelles, sa jeunesse, ses ambitions, son village, sa demeure, sa solitude. Les aveux sont certes étudiés, mais l'auteur ne les laisse pas échapper contre son gré. Les mémoires sont riches de digressions et de portraits. Ils ne sont pas un récit froid et désincarné. Le lecteur pressent que la partie engagée est plus vaste que l'action décrite et que l'on n'a pas affaire à des mémoires ordinaires. C'est en cela que Jean Guiton disait « Ces mémoires sont qu'en quelque sorte des fragments tombés de quelque mont Sinaï ». Historien de lui-même, mémoire de sa propre histoire, acteur principal du livre, il ne s'en veut pas cependant le principal héros, se mettant en scène après coup, sans nuire au personnage légendaire et à l'individu qui habite le personnage et qui tient la plume. Inspiré par la passion vécue d'un homme qui, au prix d'une maîtrise intérieure totale, s'est identifié à la France, la personne France de Michelet, Notre-Dame, la France, ce livre capital et somptueux ne dépare pas l'œuvre accomplie et ne réduit en rien, bien au contraire, le personnage historique qu'il fut. Aucune comparaison n'est donc possible avec d'autres souvenirs, confessions, commentaires ou mémoires, même écrits par les plus illustres des anciens ou ses contemporains. S'il ne cède jamais à l'illusion qui légitimerait le cours réel du monde en donnant à cette construction intellectuelle l'apparence d'une rationalité a priori, il est historien, mais surtout, pour ne pas prendre le terme galvaudé et critiqué à juste titre de philosophe de l'histoire, philosophe sur l'histoire, philosophe dans l'historique. Il a d'abord réfléchi à l'action de guerre, la guerre qui enfante tout, la guerre qui est l'histoire des hommes. Car enfin, pourrait-on comprendre, la Grèce sans Salamine, la Révolution sans Valmy, le pacte des nations sans la victoire de la France. On le sent proche d'Héraclite, Polémos, Pater, Panton, de Clausewitz et surtout de Hegel. La valeur de l'histoire est liée au sens et à la valeur de la guerre, et quand il évoque le tribunal de la guerre, juge sans entrailles, mais non sans équité, c'est encore la guerre, loi de l'histoire, et lieu de l'authentique moralité qu'il doit à Hegel, si bien étudié par M. Bourgeois. Il a surtout réfléchi à la philosophie du commandement, immuable comme la nature, véritable l'histoire, véritable leçon de l'histoire militaire. Et je crois que son génie, c'est d'avoir appliquer cette philosophie du commandement en l'étendant à la politique. Car en effet, associons une fois de plus Descartes et Bergson, il va démontrer la polarité constamment contraire des forces déterminantes, l'élan et l'organisation, la politique et les moyens, l'action et sa préparation. Alors, là où il est vraiment remarquable, ce sont dans les considérations sur l'histoire de France. D'ailleurs, il a dit « adolescent, ce qu'il advenait de la France, que ce fut le sujet de l'histoire ou l'enjeu de sa vie publique, m'intéressait par-dessus tout ». Il partage avec Michelet, Lavis, Peggy et Barrès l'idée de la continuité de l'histoire de France, intégrant dans une même vision globale royauté, république, empire. Il n'y a qu'une histoire de France et il fait sienne la formule de Peggy pour qui la République est notre royaume de France. Il ne clôt pas son histoire en 1789. Il ne la fait pas débuter en 1792. Il vibre au sacre des rois de France à Reims, comme au départ des volontaires à la proclamation de la patrie en danger. Si l'ancien régime avait réalisé et maintenu l'intégrité de la France avec les grands Capétiens qu'il admire, car ils furent d'abord les champions de l'indépendance nationale, la République, elle, était la souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice. Et s'il salue l'évangile des droits de l'homme, c'est pour les associer à la tradition des libertés françaises en retrouvant presque les termes du préambule de Mirabeau en 1789. Quand il dit que la France vient du fond des âges, il s'interroge sur les dates fondatrices. 20 siècles, c'est Vercingétorix, le premier résistant de notre race. 15 siècles, c'est Clovis. Je commence à compter l'histoire de France à partir de l'accession d'un roi chrétien qui porte le nom de France. 10 siècles, c'est Hugues Capet. En effet, le 8 janvier 1959, à Paris, le général dit « Depuis qu'à Paris, voici bientôt 1000 ans, la France prit son nom et l'État sa fonction, notre pays a bien vécu. Il y a là une allusion bienvenue que la presse n'a pas su saisir et expliquer à l'avènement difficile de Hugues Capet le 1er juin 987. Le panthéon de Gaulle est riche et sélectif. Pour ne retenir que les seules figures de proue françaises, car à l'étranger, il s'est intéressé à Disraeli et à Bismarck. Nous trouvons Du Guesclin et Jeanne d'Arc, Turenne, Condé, Vauban et Louvois, surtout Louvois, Danton, Hoche et Carnot, Carnot surtout, Gambetta et Chanzy, Poincaré et Joffre, Clémenceau et Foch. Il les évoque en effet, souvent par pair, en soulignant les avantages de leur complémentarité. Poincaré fut la raison de la France, Clémenceau en fut la fureur. L'histoire de France a imprégné profondément son esprit de figures célèbres qui exaltaient son patriotisme. Il ressentait leurs hésitations, leurs affres, leurs choix douloureux, comme personne, sans doute, ne les a ressentis. D'ailleurs, dans les discours de Londres, il dialogue, en quelque sorte, avec Foch et Clémenceau. Et il aurait voulu introduire dans les mémoires d'espoir un chapitre où il aurait interrogé les grands hommes du passé, qu'aurait-il fait à ma place, dans la même situation et avec les mêmes moyens? Il connaît bien sûr les forces et les faiblesses de la France, pays des succès achevés et des malheurs exemplaires, vieille France meurtrie de guerre et de révolution. Il est humilié par nos défaites, même lointaines, et les honteux traités de Troyes, de Paris, de Vienne et de Francfort. Mais il sait aussi qu'accoutumé aux abîmes et aux catastrophes, la France a l'habitude des sursauts et des succès obtenus dans l'extrémité. Il sait aussi qu'un grand péril rend à la France conscience d'elle-même. Il vibre aux manifestations d'union nationale, victoire de Bouvines, levée du siège d'Orléans, mobilisation de 1914. Il connaît notre vulnérabilité, la frontière du Nord-Est, mais aussi la fragilité de la population française, son inconstance, son attrait pour les idéologies, les doctrines abstraites, les chimères. Il connaît ces ferments de dispersion, le peuple mobile, incertain, contradictoire, qui étonnait déjà César, Gallorum subita et repentina concilia. C'est pourquoi il privilégie les moments de cohésion, de rassemblement, et il faut pour cela, il pense qu'il faut s'appuyer sur l'histoire, et entretenir quelques grands rêves nationaux, quelques espérances communes, quelques grands desseins, désirs du Rhin, colère de nos pères contre les traités de 1815, pensée de l'Alsace perdue, hantise de Sedan. Sous peine de danger mortel, le peuple français doit toujours viser haut et se tenir droit. En 1941, il n'hésite pas à proclamer la France depuis 1000 ans, à l'habitude d'être une grande puissance. Un appel venu du fond des âges la pousse vers un idéal de gloire et de dépassement dans l'action collective, pourvu qu'elle tende à quelque chose de grand, car le ressort d'un peuple, c'est l'ambition. Alors il ressent tous les faits et gestes de médiocrité comme une absurde anomalie, imputable aux fautes des Français et non au génie de la patrie. Toute la philosophie politique du général est donc enracinée dans l'histoire et l'enracine aussi notre histoire présente, ce qui m'amène à évoquer un chapitre qu'aurait écrit M. Paul Ricoeur, « Histoire, mémoire et oubli ». Il commémore en effet avec ferveur les victoires des grandeurs passées, mais aussi les deuils à l'Arc de Triomphe et au Mont Valérien. La mémoire est celle des actions qui permettent de créer ces moments d'unité nationale qui font la vie d'un peuple. Le passé oblige. Mais en ce qui concerne les fautes et les crimes, et bien entendu, il s'agit et de la collaboration et de l'OAS, il appelle très vite à la clémence et au silence. L'unité nationale implique que peu à peu, à mesure que le temps passe, la nation accorde sa clémence à ceux qui se sont égarés. Dans la tempête, la raison d'État a exigé la rigueur des châtiments. Aujourd'hui, elle commande la générosité. Plus tard, l'histoire éclaircira les intentions. En fin de compte, Dieu jugera toutes les âmes et la France enterrera tous les corps. Et dans le second cas, pour l'Algérie, l'amnistie promulguée 4 ans après les événements signifie que l'histoire a tourné la page. Ainsi, dans l'histoire longue de la nation, s'il exalte les faits glorieux, s'il connaît les faits douloureux, il refuse l'inscription isolée des faits honteux et barbares, et s'il juge nécessaire le devoir de mémoire, il ne saurait approuver le désir frénétique et malsain d'une hypermnésie sélective, partiale, parfois entièrement fabriquée et toujours exagérée, ni une repentance permanente et répétitive qu'il juge comme un ferment nouveau de division. Sa vision globale embrasse le passé, mais aussi le présent, et envisage toujours, de façon souvent quasi prophétique, l'avenir. Il a dit, dans la vie d'un pays, chaque action du passé entre en compte pour l'avenir. Sa vision globale associe la pensée rétrospective de l'historien et la logique prospective et géopolitique du stratège. Sa pensée historique est dominée par 4 constantes. Le refus du déterminisme historique, terme qu'il n'a utilisé qu'une fois, en ajoutant un « rien n'est écrit d'avance » qui semble le contredire. C'est en vrai disciple de Bergson qu'en 1921, le professeur d'histoire s'élève contre l'obéissance aux prétendues lois de l'histoire. Retenez cette leçon, l'histoire n'enseigne pas le fatalisme. Il y a des heures où la volonté de quelques hommes brise le déterminisme et ouvre de nouvelles voies. Quand vous déplorerez le mal présent et que vous craindrez le pire, on vous dira « ce sont les lois de l'histoire ». Ainsi le veut l'évolution. On vous expliquera, on vous l'expliquera savamment. Redressez-vous, messieurs, contre cette savante lâcheté. C'est pire qu'une sottise. C'est le péché contre l'esprit. Alors il a souvent évoqué le destin, les froides règles, inexorables, qui ne se laissent fléchir ni par les plus belles causes, ni par les principes les plus généreux, les sombres lois qui dominent la nation. Mais ce refus du déterminisme va s'associer en corollaire à la deuxième constante de sa pensée historique, qui est l'affirmation de la liberté du sujet et la condamnation d'une certaine nécessité historique. Comme Machiavel, qui mêle à l'histoire des hommes fortuna et virtus, il oppose, sinon au destin, au moins à ce qu'il appelle l'hostilité latente du hasard, la volonté humaine, le caractère. L'histoire étant au centre des événements, ce qui l'intéresse, c'est la rencontre des circonstances et des personnalités. C'est là probablement sa pensée essentielle. Dans une lettre à Jean Paulhan, « Dans ce que nous pouvons valoir, quelle part immense à l'événement, n'est-ce pas là tout l'intérêt de l'histoire ?» L'essentiel, c'est d'apprécier les contingences, de s'adapter aux circonstances en les utilisant, de faire face aux événements. Clio n'est donc pour lui ni la servante du hasard, ni de la nécessité. et le rôle des hommes dans l'histoire est essentiel, surtout celui des grands hommes, ceux qui associent pensée et action, héros, prophètes, conducteurs d'hommes, qui sont souvent, selon la pensée de Hegel, des accélérateurs de l'histoire. La troisième constante repose sur la dialectique de la continuité et du changement. Sa vision de la longue durée est un peu manichéenne. C'est celle de Michelet, l'histoire éternelle témoin du bien et du mal. L'histoire honteuse et magnifique, la lutte de l'esprit contre la matière, de la liberté contre la fatalité. Le cours de l'histoire est mouvement dans la durée, perpétuelle évolution, changement permanent, transformation incessante, sans progrès linéaire, seulement un mouvement de va-et-vient déjà noté par Jean Bodin, imprévisible, aléatoire, où la progression se fait par bonds successifs avec ses violences, ses mutations, ses régressions, ses bouleversements. Nous sommes à l'ère des catastrophes, disait-il. Sa vision est imprégnée de tragique. Elle est celle d'un pessimiste actif, mais qu'il tempère par un humanisme chrétien et un recours à l'espoir, à l'espérance. Il lui est arrivé d'évoquer, sinon la Providence, encore qu'elle soit dans les premières pages des Mémoires de guerre, au moins une certaine finalité, ce qui lui permet de structurer la mémoire collective en lui donnant, parfois, en donnant à ses propos, parfois, l'allure d'un discours téléologique. Mais à d'autres moments, le doute le submerge et ce sont des propos shakespeariens et même nietzschéens. Il tient en quelque sorte les deux bouts de la chaîne, de la tradition et de la révolution, de l'ordre et de la liberté, en s'appuyant toujours sur les seules réalités que sont les réalités nationales, en réfutant les idéologies quelles qu'elles soient et en sachant, lecteur de Spengler et de Paul Valéry, que les civilisations sont mortelles. La quatrième constante et dernière est la croyance aux forces latentes, aux forces morales, aux idéaux de perfection, véritables entéléchies, les vertus antiques et chrétiennes, non seulement individuelles, mais collectives. Par sa vie, gigantesque image d'Épinal illustrant Plutarque, c'est Roger Vaillant qui parle, par ses mémoires, par ses qualités morales, son désintéressement poussé jusqu'au scrupule, un peu comme l'empereur, il a contribué à forger sa légende. C'est par là qu'il a su créer des mythes fondateurs et mobilisateurs, d'abord celui de l'Union de la France dans la Résistance. C'est par là qu'il s'affirme aussi comme chef charismatique, au sens où l'entendait Max Weber. Le père Brugberger, qui fut votre confrère, a parlé d'un héros cornélien. Jean-Marie Domnach a parlé d'un héros postmoderne. Entrer dans la mémoire collective, un jour sans doute, l'histoire recouvrira tout, mais en fin de compte, il restera l'irréductible, quelque chose de plus que l'histoire, la méta-histoire qui emprunte à la légende, au symbole, au mythe. Le personnage a imposé sa présence dans les esprits de ses contemporains, puis dans la mémoire des générations nouvelles, et je cite Maurice Agulon, par une puissante originalité, quelques dates, quelques signes, quelques hauts lieux, quelques fortes paroles. On pourrait bien sûr lui appliquer ce qu'il écrivit de Churchill, champion d'une grande entreprise et grand artiste d'une grande histoire. Mais au-delà des événements historiques, il symbolise d'abord un combat spirituel entre la volonté et l'esprit d'abandon. C'est la victoire d'un homme sur le destin et son action sur les Français qu'il menait, il l'a dit dans ses mémoires, un peu selon le mot de Chateaubriand, par les songes, ne vient pas seulement des résultats qu'il atteint, mais des rêves qu'il incarne et qui lui préexistent. Toute son œuvre historique toute sa connaissance approfondie de l'histoire, tout son combat a été d'associer une certaine idée de la France aux institutions qui lui conviennent. Mais l'on peut dire aussi qu'une certaine idée de la France, qu'elle concerne une écriture, une certaine action, une certaine destinée, une certaine mission, met toujours en cause une certaine idée de l'histoire universelle. C'est en cela que le général, réaliste de l'action, mais aussi réaliste de l'imaginaire, selon l'expression de Jean Lacouture, transcende notre histoire nationale en laissant un message à la postérité, une mémoire d'avenir, en quelque sorte. Oui, aujourd'hui et demain, le général de Gaulle connaît et connaîtra ce qu'il avait écrit et peut-être secrètement espéré dans un article de 1921, la plus belle récompense qui puisse être, vivre honoré dans la mémoire des hommes.
C'était M. Alain Larcan, président du Conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle. Intitulé de cette communication, prononcée en séance publique le lundi 23 mai devant l'Académie des sciences morales et politiques, De Gaulle, historien. Vous pouvez retrouver bien sûr l'intégralité de la transcription de ce texte sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques. Notez bien l'adresse www.asmp.fr. Merci infiniment de votre fidélité. Bien sûr, la suite de votre programme sur Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, dans un instant.